www.libradio.org. Il y a un avant et un après Libradio.
Voilà, parce qu'on va y venir, donc à ce samedi 20 mars, la Plume Noire a essuyé une attaque d'une violence hallucinante. Il y a des images qui traînent que l'on a pu, notamment qui a été publiée par la Jeune Garde. On voit vraiment la vitrine voler en éclats, et puis on voit cette cinquantaine de faf hurler des slogans, et puis vraiment être dans la rue en plein après-midi. Dans une situation où même quand il fuit d'une certaine manière, en tout cas entre guillemets, eh ben il marche, hein, il prenne même pas la peine de courir. Enfin, c'est extrêmement choquant. Alors, voudrais-tu nous dire qu'est-ce qui s'est passé ce samedi 20 mars ?
Alors ça, le samedi, c'est une journée d'ouverture classique pour notre librairie, parce que du coup, on tient notre permanence d'accueil, et puis voilà, pour la librairie, puis aussi d'accueillir les gens qui viennent discuter un peu, boire un café, papoter. Et puis en même temps, il y a la permanence de collecte de l'association PES tous les samedis aussi sur le même horaire. Donc voilà, donc à 14h, les camarades présents et présentes sur le lieu donc ont ouvert les trois rideaux donc qui abritent la plume, ouvert les portes, etc., et commencé à installer tout pour que l'après-midi se passe. Et très peu de temps après l'ouverture, du coup, un camarade qui était à l'extérieur voit arriver un gros groupe cagoulé du haut de la rue, parce que la rue est en pente. Du haut de la rue, voilà, il a juste le temps de rentrer et de fermer à clé la porte d'entrée avant que les premières charges ne commencent. Donc du coup, il y a tout un groupe qui se dirige sur la vitrine, commence à taper dessus. Ils arrachent une banderole qu'on avait sur le haut de la plume. Donc c'est une banderole pour le collectif Les Pentes contre Bouygues, dont on a parlé tout à l'heure, contre la gentrification du quartier. Donc il y a cette première charge. Ensuite, ça recule un petit peu. Et puis, malheureusement pour nous, ça faisait 3 semaines que dans la rue, il y a des travaux de voirie. Et que du coup, le trottoir a été défoncé par les travaux et qu'il y a des gros pavés qui traînent à même pas 5 mètres de la plume. Et donc, du coup, quelques nazis en ont profité du coup pour les saisir et pour essayer. On défonçait toutes les vitrines de la Plume Noire. Alors, on avait des vitrines qui étaient un peu plus récentes, donc on résistait plus ou moins, c'est-à-dire qu'elles sont pas tombées. Puis on avait la vitrine centrale qui datait un petit peu depuis l'achat du local, qui elle était du simple verre, qui a été complètement défoncée par les pavés. Donc voilà. Alors heureusement, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a des vidéos qui tournaient. Alors c'est les voisins et voisines qui ont tourné, donc il y a 2 angles différents. Et heureusement qu'on a ces images aujourd'hui, parce que du coup l'impact que l'attaque a depuis une semaine n'aurait pas du tout été le même si on n'avait pas eu ces vidéos-là. Parce que du coup, on nous aurait cru, mais voilà, sans images, c'est toujours pareil. Hein. Au niveau de l'information, on aurait peut-être dit qu'on exagérait, qu'ils n'étaient pas 50, etc., etc. Donc ces vidéos-là, un, ont permis d'avoir des preuves directes de l'attaque. Deux, suite à leur intervention aussi vocale, parce qu'ils ont pas mal gueulé, les voisins et les voisines, ça a permis aussi que l'attaque ne dure pas trop longtemps, même si elle a duré déjà un moment, et que d'obliger, entre guillemets, les FAF à dégager. Suite à cette attaque, qui a été terriblement violente, parce que du coup, j'étais 48, on a compté un petit peu sur les vidéos, c'était du coup facile de le faire, à l'intérieur de la librairie, il y avait entre 6 et 8 personnes. Donc vous imaginez un petit peu le déficit de nombre, 6 à 8 dont des personnes donc qui font partie de l'UCL et de la Plume Noire, mais des personnes qui sont juste des bénévoles de l'association PES. Il y avait même un bénéficiaire de l'association PES qui était venu se servir en bouffe, qui s'est retrouvé dans la librairie au moment de l'attaque. Donc on a eu pas mal de chance parce qu'il n'y a pas eu de blessés physiques. Les quelques FAF qui ont essayé de rentrer ont réussi à être repoussés par les camarades présents à l'intérieur, ce qui est vraiment une bonne chose. Et puis, comme tu le disais derrière, les FAF sont repartis en gueulant quelques slogans, Lyon, Lyon, Hooligan, et puis un deuxième qui est avant Lyon, le Mélor, et puis en faisant quelques saluts nazis qui sont bien visibles sur les vidéos. Et comme tu le disais, on a eu une autre vidéo un peu plus tard, parce qu'on savait un petit peu leur parcours quand ils sont redescendus les pentes. De toute façon, ils passent à peu près toujours par le même trajet. Et on voit une vidéo, en fait, effectivement, filmée par des passants, où on les voit descendre. Nous, on pensait vraiment que suite à une attaque comme ça, ça a été préparé, mais on pensait qu'ils allaient du coup se diviser en plusieurs semi-groupes, passer par les traboules, et puis pour se retrouver un peu plus tard, plus loin. En fait, pas du tout. Les 50, ils sont redescendus tranquillement en marchant. On le voit sur cette vidéo-là. Et ils ont même été jusqu'à une passerelle qui relie du coup le centre-ville au Vieux-Lyon, pour poser avec la banderole dérobée sur la devanture de la Plume Noire.
Ouais.
Donc voilà, grosso modo, pour l'attaque.
Ouais, ouais. Alors, tu l'as dit, des personnes se trouvaient dedans. Tu l'as dit, elles n'ont pas été blessées, mais j'imagine que le choc a été important pour elle.
Bon, on n'est quand même pas passé loin d'un drame, hein, parce qu'il suffisait que le camarade qui était à l'extérieur n'ait pas pu réussir à rentrer. On imagine ce qui peut se passer 1 contre 50. Des personnes auraient pu se prendre des pavés, des éclats de verre. Ils auraient pu pénétrer à l'intérieur du local, tout défoncer et taper sur tout ce qui bougeait. Donc c'est vrai que là-dessus, les camarades présents ont vraiment présents et présentes ont vraiment limité la casse. Et ça, c'est important à souligner, parce que du coup, il ne reste que des, même s'ils sont assez importants, des dégâts matériels. Donc voilà, donc ça va être réglé, ça. Donc voilà, ce qui était le plus choquant en fait pour les camarades qui étaient présents et présentes, mis à part la violence de l'attaque, ça a été la position des flics quand ils sont arrivés peu de temps après l'attaque, parce qu'ils sont arrivés assez vite. D'ailleurs, des voisins qui criaient « il y a les flics qui arrivent », ce qui a fait fuir un petit peu, mais fuir gentiment les fachos. Et on a quand même entendu des propos, mais directs, hein, en nous le disant, et en disant « oui, on les avait repérés, mais on n'a pas pu les contrôler parce qu'on n'était pas assez nombreux ». Et on les a vus après descendre les pentes sur les caméras, mais idem, ils n'ont pas été inquiétés parce que soi-disant les forces de police n'étaient pas assez nombreuses pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est assez hallucinant quand même, et ce qui montre bien un petit peu l'impunité qui peut régner pour ces groupuscules. Parce qu'après, ils ont posé avec la banderole du coup dans le centre-ville sans être jamais inquiétés. Voilà, c'est assez hallucinant. Nous sur Lyon, malheureusement, on a assez l'habitude, mais pour le raconter à des personnes qui sont pas de Lyon, ils trouvent ça vraiment complètement fou, quoi.
Ouais, effectivement, les camarades autour de nous étaient extrêmement choqués dès lors qu'on leur a montré les images. Et comme tu l'as dit, ces images, heureusement qu'elles sont là, parce que sinon, c'est assez peu croyable de se dire à quel point est-ce que ces gens-là ont pignon sur rue depuis quelque temps maintenant. Alors, on va revenir plus tard sur la cagnotte et la manif, bien entendu. Ouais. Avant cela, encore quelques questions. C'est pas la première fois que ça arrive. Il y en a eu une en 2020, également en 2016. Voudrais-tu nous dire de quelle manière est-ce que, à chaque fois, vous avez pu reprendre un petit peu le contrôle des choses? Et voudrais-tu nous dire si, effectivement, c'est la première fois qu'on voit une telle intensité?
Alors, c'est vrai que la librairie La Plume Noire, comme c'est un lieu libertaire, autogéré, donc du coup, qui inclut pas mal de luttes, hein, pas mal de thématiques de lutte, on prend que des bouquins, on assume totalement notre engagement antipatriarcal, antifasciste, syndical et tout ça. Donc du coup, ça reste une cible, voilà, pour les fachos du coin, mine de rien. Et puis c'est sur un quartier, voilà, emblématique, hein, qui pourrait rester un quartier très militant, mais ce qui est le cas, et antifasciste. C'est pas la première attaque, effectivement. Alors la première, elle date d'un peu plus longtemps que ça. Elle date de 1997, où carrément, quand on était rue Pierre Blanc, du coup, le local avait été incendié une nuit, alors que c'était quand même sur un immeuble d'habitation. On était au rez-de-chaussée, et puis du coup, il y avait des habitations au-dessus. Mais du coup, les FAF étaient venus foutre le feu au local par la petite trou, par une petite boîte aux lettres qu'il y avait, qui donnait directement accès au local. Donc le local avait complètement cramé à l'époque. Il y avait une grosse mobilisation qui s'en était suivie, et puis du coup, les travaux avaient pu être faits et la librairie avait pu rouvrir une première fois. En 2016, effectivement, il y avait eu une première attaque, alors, qui peut ressembler un petit peu à celle qui s'est produite la semaine dernière, même s'ils étaient un peu moins nombreux, puisqu'ils étaient entre 20 et 30, voilà, à avoir attaqué le local. C'était suite à une manifestation qui avait été interdite par la préfecture de cathos intégristes, voilà, sur une église qui est située à une centaine de mètres de la Plume Noire, à une réhabilitation de l'église. Du coup, ils étaient quand même venus pour la manif, pour leur rassemblement, malgré le fait qu'elle a été interdite. Le vaisseau, forcément, de ces manifs-là a été fait par tous les groupes FAF, comme on peut le voir aujourd'hui sur les manifs pour tous ou sur les manifs anti-choix. Et du coup, la police, pareil, les avait laissés tranquillement, alors qu'ils étaient casqués, cagoulés, matossés, redescendre les pentes tranquillement. Ils les avaient laissés 20, 30 tranquillement en bas des pentes. Ils étaient remontés une heure et demie plus tard pour attaquer la librairie. Donc là, pareil, il y avait eu pas mal de dégâts au niveau des vitrines. Il n'y avait pas eu de blessés également, parce qu'on s'était plutôt bien tiré au niveau d'autodéfense du local, vraiment encore une fois sur ce coup-là. Et donc du coup, on avait eu une période de fermeture assez importante en attendant que les travaux puissent être faits. Donc ça, c'était une attaque à peu près de la même envergure, même s'il y avait quand même à peu près 20 personnes en moins par rapport à celle de la semaine dernière. Et puis en 2020, c'était deux bénévoles de l'association PES qui, en plus, c'était une journée un peu symbolique parce qu'on faisait une collecte de jouets avec eux, avec Stassos, collecte de jouets et de vêtements, voilà, pour Noël. Et du coup, en fermant le local, c'était les deux derniers, ils se sont fait attraper par un groupe de 8 qui les ont littéralement tabassés. Il y a eu un peu de dégâts physiques et forcément psychologiques là-dessus. Donc voilà, ça c'était au mois de décembre. Sur l'été suivant, on avait organisé un rassemblement juste avant les fêtes de fin d'année pour pouvoir marquer le coup. Et puis voilà, même si on ne dit pas forcément, il y a eu d'autres attaques aussi, mais qui avaient été contrées en fait. Il y a des tentatives de temps en temps. Alors je ne me rappelle plus la dernière en date, mais c'était à l'époque de la CGA où du coup Ils étaient mal tombés parce qu'ils avaient voulu venir attaquer soit le bar de la place, soit notre local. On était ce jour-là en réunion fédérale, ce qui fait qu'il y avait pas mal de monde dans le local et qu'on avait facilement réussi à les faire fuir. Voilà, il y a toujours cette idée de cible. On a quelques collages aussi des fois sur la façade, soit d'autocs, soit d'affiches. Enfin, voilà, ça reste le lieu un petit peu visé,
Ouais.
voilà, par un peu tous les groupes FAF du coin.
Ouais. J'imagine que pour eux, c'est le gros challenge, quoi. Peut-on penser que cette dernière attaque est en lien avec la dissolution de Génération Identitaire, pardon, du groupe Génération Identitaire qui vient de surgir, hein, ça fait quelque temps. Est-ce que, alors eux, évidemment, démentent, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez?
Nous, voilà, enfin, depuis le 3 mars, je crois, qu'est la date de leur dissolution, on savait, vu qu'on avait, nous, mais pas que nous, hein, qu'on avait une implication depuis des années dans des collectifs unitaires pour les faire fermer leurs locaux, etc. On savait que de toute manière, voilà, la dissolution, alors on n'était pas responsable, mais que c'est vrai qu'en fait, tous les éléments qui ont été un peu repris par le ministre de l'Intérieur, voilà, c'était quand même des éléments que nous, qu'on apporte depuis des années et des années contre ce groupe-là. Et que du coup, on savait qu'il allait avoir un retour de bâton. Alors, on savait pas de quelle manière il allait être fait. Si ça allait être sur une manif, qu'ils allaient venir, voilà, s'interposer et chercher l'affrontement. Si ça allait être, voilà, sur autre chose, sur d'autres locaux, etc. On s'attendait pas forcément sur le nôtre, hein, très clairement. On sait plus ou moins que c'était programmé. Maintenant, avec un peu de recul, en regardant un peu ce qui s'est passé à droite à gauche, que c'était bien celui-là qui était visé, le nôtre, bien évidemment. Et pour nous, ouais, y a pas de souci. Il n'y a aucun doute là-dessus que ça a un rapport avec leur dissolution. En fait, Génération Identitaire, ils faisaient des actions violentes, hein, mais ils s'en cachaient parce que du coup, forcément, ils avaient une image à préserver, contrairement au GUD, voilà, ou à d'autres groupuscules comme ça qui n'en ont rien à faire et qui prônent la violence de rue comme politique. Eux, ils avaient quand même un autre aspect, vu qu'ils s'étaient très rapprochés du Rassemblement National, et que du coup, ils exerçaient des actions violentes, mais sans jamais le revendiquer et sans jamais le montrer. Et que là, nous, enfin, l'interprétation qu'on en fait depuis cette dissolution, c'est qu'ils avaient quand même pas mal de militants qui, entre guillemets, qui tenait en laisse, voilà, en disant bah voilà, faut faire attention à l'image de notre groupe, à notre local, etc. Et que maintenant qu'il y a la dissolution, on voit bien qu'ils n'ont plus aucune maîtrise dessus. Puis on sait pertinemment aussi qu'il y avait des membres de Génération Identitaire dans cette attaque, même si ce sera très compliqué de le prouver. Mais du coup, nous on en a la certitude. Et puis on avait un petit message quand même laissé le lendemain de l'attaque sur un des tableaux, un petit tableau de présentation pour nos activités qu'on a devant sur la plume noire, voilà, où il y avait quand même ce petit message: on ne dissout pas une génération, retenez la leçon, avec une croix celtique. On ne dissout pas une génération, c'était leur slogan principal lors du rassemblement qu'ils avaient organisé à Paris, juste avant leur dissolution.
Voilà, le lien apparaît assez évident. Alors justement, comment et on entend par ailleurs également sur les vidéos des gens qui réagissent, comme tu l'as dit, qui ont d'ailleurs peut-être raccourci, on l'espère, raccourci la durée de l'attaque. Quels ont été les retours que vous avez pu sentir de la part des gens, des habitants, des gens de passage, mais également, y a-t-il eu une réaction de la classe politique? Parce qu'on est quand même dans un contexte, justement, comme tu viens de le dire, de dissolution d'un groupe Génération Identitaire dont on sait qu'il peut être violent, qu'il l'a été. Est-ce que là, il y a quand même eu quelques prises de parole publiques ou à l'égal de ce qui s'est produit avant, eh bien, un silence assourdissant?
Ouais, pour le moment, enfin, nous, on avait déjà analysé la chose par rapport à la dissolution. Nous, on a un regard assez critique dessus, hein. On pense que c'est assez symbolique, même si ça les désorganise complètement pour un temps. Nous, ce qui nous importait vraiment, c'était la fermeture de leurs deux locaux qu'ils ont sur Lyon, à savoir la Traboule et la Gaugé, qui est une salle de sport, du coup, réservée aux Blancs, dans laquelle ils entraînent très clairement des personnes à passer en mode milice. Alors, du coup, au niveau des soutiens, alors, nous, c'est la solidarité, vraiment, elle est assez forte. C'est toujours assez surprenant. Alors au niveau des voisins et des voisines, enfin du coup là on continue à ouvrir le local, hein, malgré tout depuis l'attaque, voilà, pour faire un peu de rangement, pour justement pour répondre aux questions un petit peu que les gens pensent. Il y a pas mal de gens qui passent devant le local, qui habitent ou pas le quartier, pour voilà, pour nous apporter leur soutien, pour nous montrer des preuves de solidarité, pour demander ce qu'ils peuvent faire en fait pour nous aider. Donc c'était assez intéressant en tout cas ce qui se passe suite à. Alors, c'était déjà le cas un petit peu avant, mais on a l'impression que ça s'est un petit peu accentué. La solidarité, elle se fait, bah, au niveau local, au niveau national, parce qu'on a des marques de soutien de tous les côtés. C'est vraiment aussi hyper touchant, et aussi au niveau international. Alors c'est aussi le cas, enfin c'est aussi une des conséquences positives de notre organisation, l'UCL, à savoir qu'on a pas mal de liens avec beaucoup d'organisations à l'international, et que du coup, bah, quand il y a ce qui se passe, par exemple pour nous la semaine dernière, bah, il y a vraiment des grosses marques de solidarité qui se font aussi de l'international, et c'est vraiment vraiment assez touchant. Alors au niveau politique, nous on a une mairie du premier arrondissement qui a toujours été consignante avec nous, même lors des précédentes attaques, voilà, qui était tout de suite là, tout de suite en soutien, et ça a été encore le cas du coup samedi dernier, parce qu'effectivement il y a des habitants qui ont posté des photos un petit peu du groupe qui attaquait la plume, du coup qui a été visible sur un groupe Facebook du coup du premier arrondissement de Lyon, et du coup la maire du premier arrondissement est assez vite montée à la plume noire, voilà une heure et demie après l'attaque, voilà pour voir pour savoir comment s'était passé, comment on allait, nous apporter son soutien, qui en a besoin par exemple de soutien ou de peut-être de salles annexes le temps de faire les travaux, etc. On pourra peut-être du coup compter là-dessus. Comme je disais tout à l'heure, le maire de Lyon a aussi fait une petite publication, alors ça reste symbolique, mais au moins voilà, c'est déjà là. Le responsable de la sûreté aussi de la ville de Lyon a condamné l'attaque. Voilà, ce qui est très différent de l'ère colon. Après, voilà, il faut que ça se transforme en acte, hein. Donc du coup, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment cette fermeture de locaux, quoi.
Est-ce que par hasard, il y a des revendications dans ce genre d'acte? Est-ce qu'on sait ce qui pousse 50 FAF à viser une librairie? Enfin, qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe après? Et puis ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a eu des suites policières? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été arrêtés ou ils sont simplement pas reconnaissables?
Ouais, par rapport à du coup à l'avant, enfin il y a toujours une tension qui existe sur Lyon, hein, malgré le fait qu'il y a certains groupes qui ont disparu, comme le Bastion. On sait qu'il y en a d'autres qui renaissent derrière. Voilà, depuis le BS, du coup, bah nous on a Lyon Populaire, on a Audace qui se sont créés sur Lyon. Il y a toujours l'Action Française qui est là, et du coup il y a toujours une tension qui existe sur Lyon, qui est assez hallucinante avec ces groupes FAF. Donc nous on sait de toute manière. Alors on ne pensait pas à 14h, voilà, sur un samedi après-midi en ville tranquille, qui puisse voilà attaquer à ce moment-là. Voilà, on est plus vigilant et vigilante lorsqu'on pouvait organiser des soirées avant les restrictions sanitaires, ce genre de choses. Voilà, on a tout un système qui est mis en place pour repartir, etc. Voilà, on a quand même des solutions à proposer aux gens qui viennent nous voir, etc. Là c'était quand même assez hallucinant par rapport à ça. Donc voilà, la tension est toujours existante de toute façon avec les groupes FAF sur Lyon. Là, on reçoit encore des menaces par message, forcément depuis tout ce qui se passe en termes de solidarité, parce qu'ils voient bien que quand même, enfin, il y aurait pas eu vidéo, ça aurait pas été la même, mais là, ils voient bien quand même qu'il y a des solidarités qui se font, qui sont assez grandes, notamment, enfin, le mouvement politique global à Lyon, même tous les syndicats, là, pratiquement, ont signé une tribune qui appelle à la manif. Et du coup, par rapport, ouais, au fait, du coup, oui, on a été obligé de porter plainte. Hein. C'est pas qu'on est fan de porter plainte sur ce genre d'acte, mais voilà, vu qu'on a une assurance au niveau du local et qu'on espère que l'assurance prendra en grande partie les travaux qui seront nécessaires à remettre sur pied la plume, même si nous on fera sûrement d'autres choses derrière pour en rajouter. Mais du coup, oui, il y a une plainte qui a été faite. Alors assez rapidement, c'était assez rigolo d'ailleurs, parce que du coup, les flics ont pas arrêté de nous contacter pour savoir si on avait des vidéos, des images, etc. Alors qu'il y a que ça sur le net depuis une semaine. Mais bon, voilà. Et oui, donc il y a bien a priori une enquête. On ne sait pas si les bandes vidéo ont été saisies, parce que c'est ce qui permet aussi de retracer leur parcours après l'attaque, de voir si certains ont été sont reconnaissables après, peut-être qu'ils ont enlevé leur masque, etc. Mais pour l'instant, ça, nous, on n'a aucune nouvelle depuis une semaine. La plainte a bien été déposée, mais on n'en sait pas plus pour le moment, puis on ne se fait pas beaucoup d'illusions.
Concernant PES, donc pour l'égalité sociale et l'écologie, dont tu nous as parlé tout à l'heure, alors il se trouve que pendant l'attaque, eh bien, cette association devait rassembler des dons pour les plus précaires. Est-ce que ça, selon toi, c'est également le but des FAF, c'est d'atteindre et d'effrayer ces associations de solidarité pour, alors déjà, apparaître dans l'espace public, bien entendu, et puis pour chasser, d'une certaine manière, ce type d'association?
Ouais, forcément, parce que nous, du coup, voilà, en tant que militants et militantes communistes libertaires, on est conscients et conscients du danger que peut engendrer un militantisme, ouais, notamment antifasciste. Donc on sait que voilà, on est au courant, on l'assume, chacun et chacune le gère comme il le peut. Voilà, on sait qu'on potentiellement on est une cible. Par contre, c'est effectivement autre chose quand on accueille une association composée de bénévoles à qui on met à disposition le local et qui se retrouve du coup aussi pris dans ces attaques. Alors c'est très compliqué et on sait que. Alors, on peut penser qu'il savait qu'il y avait une collecte, puisque déjà, de toute façon, après l'agression du mois de décembre 2020, la communication avait été vachement axée, et à juste titre, sur le fait que c'était deux bénévoles de l'association qui avaient été pris pour cible lors d'une collecte de jouets. Donc, ils savaient forcément que cette association-là allait héberger à la plume noire. Et on sait qu'effectivement, une de leurs stratégies, quand ils se retrouvent en danger, bah, comme avec Génération Identitaire et leur dissolution, et bah, une de leurs stratégies, bah, c'est de faire peur. Alors, c'est de faire peur aux militantes et militantes politiques. Voilà, et c'est de faire peur effectivement et ben tout le reste, voilà, et pour voilà, une des conséquences qui aurait pu engendrer cette attaque par exemple, ce serait que l'association PES décide d'une manière qui pourrait être compréhensible, hein, de chercher un autre lieu pour ses collègues de manière définitive. Ce qui pourrait se comprendre, hein, parce que du coup, on se retrouve avec des gens qui sont mis en danger, qui n'ont pas forcément demandé ça, qui sont là pour une action, alors pas de charité, parce qu'on c'est bien ce qui est spécifié dans les statuts de PES, hein, mais bien des actions de solidarité directe et concrète avec les personnes démunies, et notamment des personnes migrantes, ce qui déplaît forcément au groupe FAF. Et donc, on sait voilà, qu'il y a ce danger-là. Alors, pour l'instant, il n'y a aucun souci avec les personnes de PES, même s'il va peut-être falloir trouver un lieu transitoire, le temps que la plume soit réparée et qu'on puisse accueillir de nouveau les gens. Mais il n'y a pas cette volonté-là, en tout cas, de partir. Et pour ça, voilà, ça reste une belle défaite, en tout cas, de leur côté, côté FAF. Voilà, parce qu'effectivement, eux, ce qu'ils veulent faire, bah, c'est faire peur et qu'on arrête de faire des choses, hein, très concrètement.
Automédia de la masse critique, retrouve les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.